Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Gras à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Nicolas Ignatieff, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Joël Le Guéhennec. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne n'auront pas trop de jeudi et vendredi pour venir à bout de l'ordre du jour du prochain Conseil. Au sommet de Bruxelles, il doit être question de la politique à l'égard des migrants, quid des quotas obligatoires d'accueil de réfugiés, mais aussi des aménagements réclamés par le Premier ministre britannique David Cameron, lequel a fait de la modification des traités la condition du maintien du Royaume-Uni dans l'Union, mais encore de la Grèce, sujet incontournable, quels que soient les progrès ou les reculs enregistrés dans les prochaines heures. Sur chacun de ces dossiers, l'Europe avance divisée, chaque pays membre défendant à nouveau ses propres intérêts. À nouveau, si l'on considère que ces dernières années, les 28 avaient plutôt fait preuve d'une volonté commune pour faire face à la crise. Les politiques économiques, notamment, sont beaucoup plus intégrées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant 2008. Alors, est-ce parce que l'Union européenne va mieux sur ce terrain-là que les projets nationaux se font davantage entendre? Depuis le début du siècle, l'Europe a pour slogan « Unie dans la diversité ». Mais aujourd'hui, la diversité n'est-elle pas en train de prendre le pas sur l'Union? Va-t-on vers une Europe à la carte? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, je reçois ce soir Coralie Delhomme. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste. Vous avez publié l'an dernier aux éditions Michalon Europe, les États désunis. On peut également vous lire sur votre blog, L'Arène Nue. Enfin, vous lire vous et pas seulement vous d'ailleurs, puisque vous accueillez un certain nombre d'invités sur ce blog. Pour discuter avec vous ce soir, Guillaume Clossa, bonsoir.
Bonsoir, Hervé.
Vous êtes le fondateur du think tank Europa Nova, dont vous venez d'ailleurs de laisser il y a quelques semaines, je crois, la présidence. Vous êtes par ailleurs membre du directoire de l'Union européenne de radio-télévision. Vous avez publié chez Grasset une jeunesse européenne. C'était l'an dernier,
vous aussi. C'était l'an dernier. C'est un récit qui prend un peu la suite du monde hier de Stéphane Zweig et qui raconte sur quatre décennies l'histoire de ma génération.
Notre troisième et dernier invité se trouve en duplex du Centre international de la presse à Bruxelles. Il s'agit de Marcel Sel. Bonsoir.
Bonsoir, Hervé.
Vous êtes écrivain et blogueur. Votre blog, c'est un blog de Sel. Le premier volume de vos carnets de blog vient de paraître chez The Book Edition. Alors avec vous trois, on va parler un petit peu de cette actualité européenne et de voir en quoi elle est significative ou non, bah peut-être d'une forme de désunion. Il y a le Grexit, donc l'idée que la Grèce pourrait sortir de la zone euro. Le Brexit, ça c'est pour le Royaume-Uni, cette volonté qu'a David Cameron d'organiser un référendum pour demander si les Britanniques veulent ou pas rester au sein de l'Union européenne cette fois. Je rappelle que le Royaume-Uni ne fait pas partie de la zone euro. Et puis il y a ces réponses très nationales par rapport aux problèmes migratoires. On vient d'en entendre un extrait à la fin du journal d'Aurélie Kiefer qui expliquait que la Hongrie avait suspendu un règlement clé qui concerne les demandes d'asile dans l'Union. Est-ce que vous voyez dans tous ces signes, Coralie Delhomme, les signes justement d'une Europe qui se désunit aujourd'hui, en tout cas qui est désunie?
Qui l'est de fait, oui. Et l'Europe à la carte, en fait, elle existe déjà, puisqu'il y a un certain nombre de cercles d'appartenance et tout le monde n'appartient pas à tout. Par exemple, la Grande-Bretagne n'appartient ni à Schengen ni à la zone euro, ce qui fait d'elle finalement un pays qui a su rester relativement souverain. Il y a les pays qui sont pas dans l'Union, mais qui ont quand même un grand nombre d'interactions économiques avec l'Union, et qui sont dans l'AELE, l'association de libre-échange. Et c'est pas parce qu'ils sont pas dans l'Union d'ailleurs qu'on n'a aucun rapport avec eux. Hein. Ce sont des voisins, ce qui prouve bien qu'on n'est pas forcément obligé d'être membre pour avoir des interactions, membre d'une structure supranationale, je veux dire. Il y a les membres de l'Union. Et puis il y a le cas très particulier des membres de l'euro qui eux vivent dans un monde un peu particulier puisqu'ils sont une chape fédérale, en tout cas une chape monétaire fédérale incomplète puisque l'euro est le seul élément fédéral de l'Union aujourd'hui.
Donc c'est pas seulement des éléments de désunion conjoncturelle mais c'est une forme de désunion structurelle, c'est-à-dire qui est inhérente à l'organisation même de l'Europe, Coralie Delhomme.
Oui, et puis qui me paraît à moi un peu inévitable dans la mesure où la réalité des nations d'Europe, c'est qu'elles n'ont ni la même histoire, ni la même structure économique, ni la même géographie, ça c'est important, ni les mêmes relations que ce soit avec la Russie, avec les États-Unis, enfin pas la même géopolitique. Donc les divergences d'intérêts sont normales et c'est pas tellement surprenant qu'il se fasse jour aujourd'hui des divisions.
Des divergences d'intérêts aujourd'hui, Guillaume Clausat, c'est difficile de les nier, mais est-ce qu'elles vous paraissent particulièrement importantes, ces divergences aujourd'hui ?
Je pense qu'il y a, toujours eu des divergences au cœur du projet européen. Il y a une grande diversité européenne, comme l'a dit très justement Coralie Delhomme. Mais il y a différentes volontés ou différents niveaux d'intégration. L'idée de l'Union européenne après-guerre, c'est qu'il fallait construire ensemble quelque chose qui soit un projet commun, qui soit un projet politique, culturel, social. On a trouvé une modalité économique pour le commencer, une modalité monétaire avec la création d'euros pour le poursuivre, pour essayer d'inventer un nouveau vivre ensemble qui nous permette à la fois de garantir la paix et de faire masse critique dans un monde qui, en fait, dès les années 50, aurait dû être un monde multipolaire avec une Inde, un Brésil, une Chine puissante. Et ce monde multipolaire ne s'est vraiment développé qu'à partir du début des années 2000. Et
donc, sauf qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ce vivre ensemble-là, il est à géométrie variable. En tout cas, chaque pays a
vivre
sa
ensemble
propre notion.
Toujours, alors, d'abord, il y a toujours une géométrie variable. La preuve, c'est l'euro, avec ceux qui voulaient aller plus vite. Et on a raccroché aussi au projet européen des gens qui ont toujours été à la limite du scepticisme quand le Royaume-Uni, c'est un débat qui n'a jamais... Est-ce que le Royaume-Uni a véritablement sa place dans un projet qui est un projet d'union continentale et qui n'a pas du tout la même histoire parce qu'il n'a pas vécu de la même manière un certain nombre de conflits. C'est une question qui se pose encore aujourd'hui. Et l'idée, c'était d'inventer ensemble un deuxième niveau de citoyenneté, qui soit une citoyenneté européenne, qui ne se substitue pas à la nation, mais qui la complète et qui permette de garantir la paix et la reconstruction. Là-dessus, on a réussi, mais il y a une réalité, c'est qu'il y a une grande diversité économique, et pour que le projet fonctionne véritablement, il faut plus de solidarité, il faut aussi plus de politique.
Mais vous dites donc qu'il y a toujours eu des divergences, c'est normal, mais est-ce que les divergences actuelles vous paraissent plus importantes qu'elle ne l'était dans les années précédentes?
Il y a un paradoxe, c'est que ces 5 dernières années, on a plus fait pour l'intégration européenne qu'on a fait les 25 précédentes. Et donc d'un point de vue factuel, l'Europe, du moins l'Union européenne, et notamment le noyau dur économique, a beaucoup progressé. Maintenant, ça suffit plus. On a mené avec une douzaine de fondations en Europe un projet qui s'appelle un nouveau pacte pour l'Europe pendant 2 ans. Et on a demandé aux citoyens si l'Europe leur paraissait nécessaire et les conditions qui étaient nécessaires pour qu'ils se rapproprient le projet européen. Et ce qu'ils nous disent très clairement, c'est que on a besoin de plus de démocratie. On a besoin sans doute d'élire au suffrage direct ou indirect plus clairement nos dirigeants, parce qu'on a besoin d'un lien d'appropriation, et sans ce lien, la diversité prime. Secondo, on a besoin d'une Europe qui réunisse et pas qui divise. Et pour ça, elle doit avoir un budget et elle doit pouvoir aider le citoyen, notamment, par exemple, quand en Grèce, on a un problème pour financer le système d'assurance chômage, il faudrait qu'il y ait un budget européen qui aide les Grecs provisoirement à fonctionner.
Alors, j'avais entamé un tour de table. Vous avez remarqué que j'ai pas encore interrogé Marcel Seldes, qui, je rappelle, se trouve à Bruxelles. Votre diagnostic à vous sur l'état de désunion de l'Union européenne?
Ben, j'ai pas grand chose à ajouter à ce qui a été dit, notamment sur le fait que l'Europe a toujours été désunie quelque part. À propos des cercles différents, il y a quelque chose qui est assez cocasse, c'est que par exemple, vous avez 19 pays dans l'euro, si je ne me trompe, mais vous avez aussi le Monténégro et le Kosovo qui utilisent l'euro sans être dans l'eurozone. Voilà. Sur l'évolution de l'Europe, c'est un petit peu... C'est vrai qu'on a renforcé les liens économiques depuis 2008, surtout à l'intérieur de la zone euro, mais on était obligé de le faire, on n'avait pas le choix. Et ça, je pense que c'est un peu la façon d'avancer de l'Europe. C'est quand elle n'a pas le choix, quand les pays n'ont pas le choix d'un renforcement, qu'évidemment, ils vont se renforcer. Quand on va se retrouver confronté à des géants économiques d'ici quelques années, ou décennies, notamment aujourd'hui déjà la Chine, mais demain la Russie, et va probablement être obligé d'aller plus loin dans l'intégration, notamment sociale. Aujourd'hui, il y a des pays qui s'y opposent absolument. Il y a encore une mentalité assez nationaliste ou surpatriote, je vais dire, de ce côté-là. Et c'est vrai que par rapport à la Grèce, bon, c'est très bien de vouloir la solidarité, mais si on n'arrive pas à réunir un consensus déjà au sein des pays eux-mêmes, et je notais aujourd'hui, par exemple, dans le CDU d'Angela Merkel, vous avez Wolfgang Schäuble déjà au niveau allemand, vous avez Wolfgang Schäuble qui
est le ministre des Finances allemand.
Oui, c'est le ministre des Finances allemand, pardon, qui trouve qu'on ne va pas du tout assez loin, que les propositions d'Alexis Tsipras ne sont pas du tout suffisantes. Et puis en même temps, il y a Angela Merkel qui a l'air de dire que c'est un bon début. Donc voilà, je veux dire, même déjà au sein des pays, on ne trouve pas d'accord. Entre des pays proches, on se dispute, même des partis quand ils ne sont pas au pouvoir, je pense notamment par exemple aux partis sociaux-démocrates en général, que ce soit Parti socialiste français ou belge, quand ils ne sont pas au pouvoir, ils sont pour une aide plus généreuse, plus rapide et plus immédiate à la Grèce. Et quand
mais est-ce que, pouvoir, Marcel Selle, que, choses, est-ce que vous diriez, Marcel Selle, que ça c'est lié au fait que peut-être que la situation économique s'améliore et que du coup l'idée d'une Europe modulable revient parce qu'il y a davantage de choix, justement, et que quand il n'y a pas de choix, on fait de l'intégration. Quand il y a du choix, et ben c'est beaucoup plus diversifié.
Ben, c'est une impression que j'ai. Hein. Je voudrais pas en faire une expertise, mais c'est l'impression que j'ai. Parce que rappelez-vous, il y a à peu près exactement 10 ans, il y a eu ce référendum sur la Constitution européenne. Et il y a deux pays, donc après que l'Espagne l'a approuvé par référendum et la plupart des autres pays par des votes dans leur parlement, il y a deux pays qui ont refusé cette Constitution européenne. Ce sont la France et les Pays-Bas. Donc, et à cette époque-là, on ne peut pas dire qu'il y avait crise, et je pense que tout allait relativement bien. C'est d'ailleurs pas du tout sur des raisons économiques cette constitution a été refusée.
Alors, on va voir justement si Coralie Delhomme et Guillaume Clossat partagent votre impression, Coralie Delhomme.
Oui, je pense. C'est l'idée qui est défendue là, c'est l'idée qu'avaient les pères fondateurs, qu'en fait, certes, on allait créer un embryon qui serait peu satisfaisant. Et au moment de créer l'euro, c'est aussi ce qu'un certain nombre de personnes se sont dit. On crée une monnaie bancale très incomplète, sans budget fédéral, une banque centrale fédérale qui n'est pas adossée à un État, qui est autonome. Bon, qui ne rendait compte à aucun pouvoir politique légitime. Et les gens qui ont façonné ce projet s'imaginaient que, au gré des crises, l'intégration serait rendue de plus en plus nécessaire et que...
C'est quand même ce qui s'est passé après 2008 sur le plan de l'économie.
C'est pas un phénomène d'intégration qui s'est produit. C'est d'abord un phénomène de désintégration de certaines économies nationales. Quand vous voyez dans l'état dans lequel se trouve aujourd'hui l'économie grecque, on les a lessivés.
Si vous prenez par exemple le mécanisme européen de stabilité, si vous prenez l'union bancaire, si vous prenez les pouvoirs qui sont accordés plus importants à la BCE, de l'intégration.
Je sais pas ce que vous entendez par intégration. En vérité, ce qui a été mis en œuvre, c'est un processus de hiérarchisation de l'Europe où il y a un certain nombre de pays qui sont devenus surpuissants et un certain nombre d'autres qui sont complètement inféodés. Et on le voit très bien aujourd'hui dans ce qui se passe dans la négociation entre la Grèce et ses créanciers. La Grèce est un pays qui a été mis sous tutelle et dont on n'accepte absolument pas qu'elle tente de se débarrasser, ne serait-ce que d'une partie de cette tutelle. Les créanciers aujourd'hui ne cherchent pas un accord, ils attendent une reddition. Ils attendent véritablement que le gouvernement qui a été choisi par des citoyens capitule à leurs conditions. Donc c'est une Europe hiérarchisée. Toute la presse est accrochée à ce que peut dire ou penser Angela Merkel ou son ministre des Finances. On voit très bien, in fine, qui décide. L'Allemagne décide et on demande à la Grèce d'appliquer.
Guillaume Clossat.
Mais je pense qu'il faut pas tout mélanger. D'abord, il y a des économies qui ont toujours eu des problèmes. L'économie grecque a été une économie qui a profité artificiellement de l'aide européenne. L'État grec n'est toujours pas un État moderne, avec une administration moderne et compétente. Et on sait que on a besoin d'une, pour qu'une économie fonctionne, pour qu'une société fonctionne, d'une administration compétente, d'un système universitaire qui fonctionne, d'une éducation qui fonctionne, de médias qui fonctionnent. Et malheureusement, la Grèce n'est pas dans ce cas-là. Donc il y a aussi une responsabilité propre des dirigeants grecs, de gauche, de droite, toute une histoire sur laquelle, en effet, les Européens n'ont pas été suffisamment vigilants quand ils ont admis la Grèce dans l'euro. Première chose. Deuxième chose, oui, le système, moi c'est pas ce que j'aurais fait par rapport à la Grèce quand il y a eu la crise, j'étais au Conseil européen à l'époque, je crois que je suis le premier à avoir dans un papier début 2009 dit attention, on va vers une crise systémique et on a besoin d'un mécanisme de stabilité, un fonds monétaire européen, il suffit de 20 milliards pour arrêter la crise. Et là, il y a eu une cécité de l'ensemble des dirigeants, de gauche comme de droite, de tous les partis. Personne n'a voulu rien faire. Et le problème qu'on a, c'est qu'on a besoin de gens qui pensent le système européen pour que ce système européen fonctionne. Et en effet, parce qu'on a donné le primat au Conseil européen, c'est-à-dire aux chefs d'État et de gouvernement, on a une juxtaposition depuis une dizaine d'années de points de vue nationaux, et c'est le plus fort qui prime. Et moi, je pense que c'est pas du tout la philosophie du système européen. La philosophie du système européen, c'est un système communautaire où il y a un gouvernement, une commission qui porte l'intérêt général européen et qui essaie d'avoir une approche qui profite à l'ensemble des citoyens européens et pas à certains. Pour la Grèce, je pense qu'il y a trois choses à faire. Il y a primo avoir un état objectif de la situation, notamment administrative, de la manière dont l'économie fonctionne, de la manière dont le système éducatif fonctionne. Et il faut que ce système fonctionne, il faut le financer pour que ça fonctionne. Deuxièmement, il faut trouver un système qui permette d'une manière ou l'autre aux dettes, aux Grecs de rembourser leurs dettes, mais en l'allégeant. On a allégé la Grèce de l'Argentine, le FMI a fait des efforts, il devra faire des efforts dans cette situation. Il faut être réaliste. Donc, on peut trouver des artifices pour rassurer les marchés. On peut allonger à l'infini la dette de la Grèce, mais il faut trouver un. Et troisièmement, on a besoin.
Rapidement, Guillaume Clossa.
Juste.
Alors, Coralie Delhomme.
Pour répondre en deux mots sur la question de l'administration grecque qui doit se réformer, etc. D'abord, Tsipras et son gouvernement ne contestent absolument pas. Encore faut-il qu'on leur laisse le temps, parce que là, ça fait 6 mois qu'ils ont le couteau sous la gorge.
Non, mais moi, c'est ce que je dis. Hein. Je dis qu'il faut donner les moyens aux Grecs, les moyens en termes d'expertise, en termes de financement, pour pouvoir structurer un véritable État.
La deuxième chose, c'est que la manière dont a été mal géré l'État grec n'explique pas tout dans cette crise de l'euro, parce que ça n'explique en aucun cas l'appauvrissement du Portugal, de l'Espagne, les 2000 milliards de dettes de l'Italie et tous les problèmes que rencontrent aujourd'hui les pays d'Europe du Sud. C'est la mise en place d'une monnaie qui ne leur convenait pas qui les a ruinés véritablement.
Marcel Sen.
Oui, mais sur la mise en place de la monnaie, je suis désolé, tous ces pays ont accepté les conditions, donc on peut pas reprocher, par exemple, à l'Allemagne et à la France d'y être responsable de quelque chose. Moi, ce qui me fascine dans la façon dont on perçoit la crise grecque, c'est que c'est très manichéen. C'est soit les Grecs ont été quelque part maltraités par les autres pays européens, et notamment par la méchante Angela Merkel, et puis de l'autre côté, c'est l'inverse, c'est les Grecs ont fauté, il faut absolument les punir, ce que d'ailleurs Wolfgang Schäuble, donc le ministre des Finances allemand, a répété plusieurs fois dans des réunions du Conseil européen. Et l'impression que j'ai, c'est qu'on est finalement dans quelque chose de idéologique, alors que il me semble que maintenant on a la démonstration que les solutions qui ont été proposées jusqu'ici ne fonctionnent pas. Hein. La Grèce a perdu 25% de son PIB en quelques années, je crois en 5-6 ans, quelque chose comme ça, ce qui est exactement comparable à la crise de 1929 aux États-Unis. Aujourd'hui, est-ce que, quelque part, je pose la question à Guillaume Clossa, qu'est-ce qu'il en pense, est-ce qu'on ne devrait pas dire, puisque les taux d'intérêt sont pratiquement à zéro, la France, l'Allemagne empruntent parfois à taux négatif, la Belgique aussi récemment, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement bloquer la dette grecque et travailler uniquement au redressement de l'économie?
Est-ce que ce serait ça, mais brièvement, Guillaume, que ça, sortir des règles et permettre justement aux Grecs d'adapter les règles qui sont celles qu'ils ont acceptées en entrant dans la zone euro?
Moi, je pense qu'on peut toujours trouver un outil financier qui permette de reporter et de réduire la dette grecque, premièrement. Et donc, il y a une possibilité. Comme Marcel l'a compris, je pense qu'il faut une sorte, je ne vais pas dire un plan Marshall pour la Grèce, mais il faut reconstruire ou construire un État, une administration, pour que les Grecs puissent fonctionner de manière normale. Ce qui n'a jamais été le cas depuis l'après-guerre, et où on a fait une erreur collective. Et je pense aussi qu'il y a un sujet qui est tabou, mais qu'il faut mettre sur la table, c'est le budget de la défense grecque, qui doit être, à mon avis, réduit drastiquement. Et pourquoi ça n'a pas été fait? Tout simplement parce qu'il y a des contrats qui profitent aux Français, aux Allemands et à d'autres.
Oui,
et donc,
sûr.
Il faut mettre tout ça sur la table pour trouver une solution qui soit acceptable pour les Grecs et qui soit dans l'intérêt des Européens. Premièrement. Et deuxièmement, sur ce que disait Marcel, qui me paraît très juste, c'est que on voit qu'il y a un ministre des Finances qui a une position dans le cadre du Conseil des ministres des Finances, mais on voit aussi un système d'équilibre. C'est-à-dire que la France, la chancelière, a compris qu'on ne pouvait pas sortir la Grèce de l'euro, parce que la sortir de l'euro, quelque part, c'était donner le signal que l'Europe est en train de se démembrer. Et que dans la période dans laquelle on se trouve, il y a un risque systémique qui est une crise beaucoup plus grave, à la fois économique, politique et géopolitique. Et personne ne veut prendre ce risque-là.
Est-ce qu'il n'y a pas surtout une crainte de montrer que la construction européenne n'est pas quelque chose d'irréversible, Guillaume Clausat?
Aucune construction n'est irréversible. Mais c'est vrai que quand on commence à détricoter quelque chose, le risque, c'est qu'on ne sait plus quand ça s'arrête.
Coralie Delhomme, juste sur cette question de l'irréversibilité. Je voudrais vraiment pas qu'on passe toute l'émission uniquement sur le cas grec. Parce que
la plupart des empires ont disparu. Hein.
Je vous rappelle à notre thème ce soir, c'est si on va vers une Europe à la carte. Il y a d'autres dossiers que je voudrais aborder, oui. Mais sur la question de l'irréversibilité, est-ce que ça n'est pas aussi pour cela qu'il y a peut-être une forme de défiance à l'égard des institutions européennes, parce qu'on pourrait aussi avoir l'impression que de toute manière il n'y a pas le choix et que la progression elle est absolument linéaire.
Je pense aussi que dans cette affaire grecque, la sévérité et l'autisme quasiment des créanciers, parce que les Grecs ont fait finalement beaucoup de propositions, tient au fait que ces créanciers, et la France a fait partie des gens qui ont fait pression pour que la Grèce aille dans le sens des réformes austéritaires, mais ces créanciers veulent absolument faire un exemple pour décourager les mouvements de gauche radicale qui sont en train de fleurir, notamment en Espagne, sachant que l'Espagne aura ses élections générales en novembre prochain et que Podemos rencontre incontestablement des succès. D'autre part, il est vrai aussi que dans des pays comme le Portugal, même s'il n'y a pas de parti alternatif de gauche, le parti socialiste local a également gauchi son discours. Il évoque des gens désormais des potentialités de restructuration de la dette, etc. Donc, il y a la crainte chez les créanciers que la Grèce réussisse et que ça fasse exemple. Donc, il faut qu'elle échoue. Voilà, c'est ça.
Donc, crainte d'une forme d'autonomie, alors vous dites, par rapport au parti de gauche. Je voudrais qu'on aborde un autre dossier à présent, c'est celui du Brexit. Donc, le projet ira-t-il jusqu'à son terme, porté par David Cameron, de proposer un référendum pour savoir si le Royaume-Uni reste ou non au sein de l'Union européenne. Alors là, on n'est plus à gauche, on est plutôt à la droite de l'échiquier politique. Est-ce que, là aussi, comment est-ce que vous analysez, je vais peut-être me tourner vers vous, Marcel Selle à Bruxelles, comment est-ce que vous analysez ce projet-là? Est-ce que vous y voyez une forme de projet de désintégration ou en tout cas la manifestation d'une Europe qui deviendrait de plus en plus une Europe à la carte?
Non, j'ai cette impression. Je pense que, bon, là, je suis évidemment pas dans la peau de Monsieur Cameron, mais j'ai l'impression qu'on est quand même toujours dans la même attitude anglaise de je reste, je reste pas, je marchande cher ma position dans l'Union européenne, enfin mon état de membre de l'Union européenne. Il faut savoir qu'au niveau du référendum, par exemple, il est lui-même dépassé un petit peu par son propre parti. Il a dû rappeler ses troupes à l'ordre parce que certains voulaient déjà militer pour un oui à la sortie de l'Europe, et c'est pas pas, je pense, à ça qu'il utilise réellement le référendum. Donc voilà, non, moi j'ai pas l'impression que Cameron veuille vraiment quitter l'Europe. C'est pas un europhobe, c'est plutôt un eurosceptique. C'est quelqu'un pour
il s'en sert en tout cas comme un moyen de pression pour dire bah voilà, moi si c'est vous vrai, voulez pas oui, qu'on parte de sûr. L'Europe, voilà les aménagements qu'il faudrait. Alors son plan n'est pas encore très clair, mais il y a trois grandes idées pour l'instant qu'on connaît. C'est interdire l'accès à toute allocation sociale pour les immigrés européens pendant 4 ans. Il veut que les décisions de la zone euro n'impactent pas ceux qui ne sont pas dans la zone euro, ce qui paraît peut-être un petit peu compliqué à faire. Et puis que les parlements sociaux, les parlements, pardonnez-moi, nationaux, puissent s'opposer à des règles de Bruxelles. Donc il y a quand même l'idée de pouvoir aménager les règles internes à l'Union européenne.
Oui, mais ça, c'est pas nouveau, parce que le Royaume-Uni avait déjà des exemptions, notamment au niveau du droit européen. Et puis, quelque part, moi, ce que je trouve remarquable, c'est que vous avez un autre pays tout à fait à l'opposé, qui est la Hongrie, qui prend, on vient de l'entendre, des décisions unilatérales qui vont en principe à l'encontre du droit européen, mais elles demandent l'avis à personne, elles n'essayent pas de négocier. Le parti de Viktor Orban est beaucoup plus brutal. Il arrive en disant bah, on va réintroduire la peine de mort, par exemple, ce qui est évidemment tout à fait contraire au droit européen. Donc, l'Angleterre, j'ai l'impression que... Je vais peut-être être poétique, trop poétique ou naïf, mais j'ai l'impression qu'elle attend toujours qu'on lui dise « mais non, reste ».
Il n'y a que ça.
Sachant que Orban souvent annonce des choses, et puis se rétracte, par exemple, il a annoncé son idée de rétablir la peine de mort, et puis tout d'un coup, les Européens ont réagi vivement, et puis il a dit que ce n'était pas ce qu'il voulait dire exactement. Et sur plein de sujets, on voit que Orban fait des va-et-vient extrêmement populistes et contraires aux valeurs européennes, qu'il est rappelé à la charge, qui fait un pas en arrière. C'est pas satisfaisant, mais il y a une sorte de jeu de dupes qui se joue avec Orban.
Et sur l'idée plus générale que certains pays souhaitent adapter les règles ou sortir de certaines règles parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent appliquer au niveau national. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble légitime ou qui ne l'est pas au regard de la construction européenne, Guillaume Clossat?
La grosse difficulté, c'est que plus on fait d'Europe à la carte, moins le système est gérable. On a créé dans les traités les coopérations renforcées. Finalement, on n'a quasiment pas créé de coopération renforcée. C'est très compliqué à mettre en œuvre.
C'est-à-dire, c'est 9 pays minimum qui peuvent se mettre d'accord pour mener une politique commune.
Gérer des exceptions, même pour le pays qui doit gérer les exceptions. Le Danemark l'a dit d'ailleurs sur un certain nombre d'exceptions qu'il a demandées. Il souhaite revenir en arrière et peut-être faire un nouveau référendum pour revenir sur les exceptions. Parce que c'est même pas gérable pour le pays qui les demande. Donc, il y a un sujet qui est que soit on veut vivre ensemble et dans ce cas-là, on essaie de trouver des terrains d'entente et de vivre ensemble. Et l'Europe ne peut pas être telle qu'elle est aujourd'hui, uniquement un système à faire des règles. Elle doit contribuer au développement, à l'épanouissement des citoyens d'une manière ou d'une autre. Je sais pas, Erasmus est un exemple, mais c'est pas un exemple suffisant. Soit on considère qu'on n'a plus rien à faire ensemble, et dans ce cas-là, on crée plein d'exceptions, mais le système va imploser de lui-même. On voit, d'un point de vue pratique, que c'est pas gérable. Et donc, le sujet, c'est est-ce que on pense qu'on doit construire une sorte de puissance européenne ou pas? Si on doit construire une puissance européenne, il faut qu'il y ait des leaders politiques et des citoyens qui aient envie d'aller dans ce sens-là. Et qu'on trouve les modalités démocratiques pour lui donner une légitimité. Je pense qu'on est à ce moment où la distance avec la guerre est tellement loin pour les jeunes générations, ça ne veut plus rien dire, à tort ou à raison, parce qu'on voit que la guerre est à nos frontières, que... Il faut un nouveau récit européen et il faut une nouvelle dynamique démocratique et politique si on veut vraiment, et moi je suis de cela, et si l'on croit vraiment qu'il y a besoin d'une unité européenne qui soit une unité politique et démocratique.
Corley de l'homme, les exceptions qui sont nombreuses, finalement, en tout cas, les possibilités d'exception qui sont prévues par les institutions européennes, elles sont nombreuses aujourd'hui. Est-ce que vous y voyez, vous aussi, comme Guillaume Clossat, un risque d'implosion pour l'Europe?
Un risque d'implosion si on veut tient, comme Guillaume Clossat le souhaite, à faire une union supranationale. Moi, je pense personnellement que ça ne peut pas marcher. Parce que moi, je considère que, et je pense que c'est l'idée que les Anglais ont dans la tête, parce que eux sont très attachés à la démocratie parlementaire, c'est leur tradition. Et je pense que le lieu normal d'exercice de la démocratie et d'expression de la souveraineté, c'est le Parlement national. Toutes ces, les décisions qui sont prises en mode supranational sont certes légales, mais elles ont une légitimité qui est vraiment très contestable. Voilà, et sachant que, on a décidé, il y a très longtemps de ça, c'était dans les années 60, la Cour de justice des communautés européennes avait, par un mode de décision jurisprudentiel, établi le fait que, et ça n'a jamais été contesté par les États, mais aucun Parlement ne l'a voté, elle avait établi le fait que le droit européen prime sur les droits nationaux. Ça date de loin, ça n'a jamais été contesté, c'est comme ça, personne ne questionne ce fait, mais dans la tradition anglaise où effectivement c'est le Parlement national qui exprime la volonté du peuple, et ben ça peut pas marcher.
Mais la question qui se pose pour moi d'un point de vue de philosophie politique, c'est qu'à partir du moment où il y a des défis qui dépassent le cadre national, parce que la nation est une entité qui a été construite assez récemment et qui répondait à la capacité de gérer un certain nombre de sujets qui étaient des sujets éminemment nationaux. On est de plus en plus dans des sujets supranationaux. Est-ce que pour gérer des sujets supranationaux, il ne faut pas aussi une forme de démocratie ou de peuple supranational?
Je pense que ça ne se décrète pas un peuple, oui, mais, en fait. Enfin, ça ne se décrète pas un peuple.
Non, mais c'est pas un peuple, c'est pas uniquement des gens qui sont pareils. C'est la volonté d'essayer de construire quelque chose ensemble. Je veux dire, le peuple français, il s'est construit petit à petit. La démocratie française s'est construite sur un siècle et demi.
Il s'est construit avec beaucoup de violence.
Et il s'est construit avec beaucoup de violence.
Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui en Europe est violent.
Non, on essaie de le faire de manière pacifique.
Après, non, ça n'est pas pacifique.
Après, moi je pense, et on l'a dit sur la Grèce, que la recette pour trouver une solution acceptable pour les Grecs, elle est différente de celle qu'on met en œuvre aujourd'hui. Et ce type de discussion, il doit avoir lieu au Conseil européen. Le problème, c'est qu'au Conseil européen, il n'y a pas ce type de discussion. Parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, il y a sans doute un déséquilibre. Parce que la France aussi ne propose, ou d'autres pays ne proposent pas de solution alternative. Et donc, un espace politique dans le monde tel qu'il est, il est nécessairement complexe. On a besoin de gens qui aient des visions d'ensemble et qui mettent sur la table des solutions alternatives. C'est là aussi où il y a un vrai sujet.
Je crois que Marcel Selle veut intervenir.
Oui, je voulais dire simplement que la démocratie, parce que bon, on a des idéaux de démocratie, mais si on pense que la démocratie, c'est réaliser les souhaits du peuple, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, aujourd'hui, Angela Merkel devrait tout faire pour qu'il y ait un Grexit, puisque c'est ce que veut la majorité de sa population. Or non, dans la démocratie, il y a aussi une dimension qui est celle, je dirais, du grand penseur, c'est-à-dire de la personne qu'on élit, pas pour qu'elle réalise entièrement le programme qu'il a promis de faire, ça n'arrive jamais, mais pour qu'il, parce qu'on pense qu'il est le plus à même de faire avancer globalement la démocratie. Et tous nos chefs d'État ont créé l'Europe, ils ont souscrit aux différents traités, ils les ont modifiés. Je pense que si on avait demandé systématiquement à la population européenne si elle voulait le faire, elle aurait dit non. Et je pense que si, évidemment c'est une supputation, mais on peut imaginer, et que en fait, si on n'avait pas eu ce transfert, qui est démocratique, puisqu'à l'origine, tous les gens qui ont construit l'Europe ont été élus par leur population, eh bien aujourd'hui, on serait encore des nations séparées, hostiles les unes par rapport aux autres tous les 20 ou 30 ans, et on serait économiquement extrêmement mal placé par rapport à d'autres pays. Et il ne faut pas oublier non plus, pour répondre à Coralie Delhomme, que les inégalités en Europe, c'est peut-être violent, mais comparé aux États-Unis, c'est rien du tout. Hein.
Est-ce que ça veut dire que pour vous, Marcel Selle, avant de faire réagir Coralie Delhomme, que vous considérez qu'il ne faut pas faire de concessions aux pays qui demandent des aménagements des règles européennes ?
Non, je pense que l'Europe, c'est encore un embryon, c'est pas encore un enfant formé, donc bien sûr, ça
donc
va
pas assez solide passer... Fournir justement les assouplissements qui sont demandés ?
Si, pourquoi pas, je veux dire, mais on est toujours un peu dans le bricolage, et on sera dans le bricolage jusqu'au moment où on sera peut-être une confédération ou carrément un État fédéral, mais effectivement, on est confronté à des opinions publiques extrêmement différentes. Il suffit de lire, si vous lisez dans deux, trois langues des journaux allemands, italiens ou français ou belges sur le même sujet, vous avez des opinions déjà de journalistes journalistes qui sont totalement différentes. Donc effectivement, il y a du bricolage et adapté, ben, c'est ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent, pratiquement à chaque étape, hein, Schengen, l'euro, le mécanisme de change européen dont seul le Danemark est membre aujourd'hui. Enfin, ça me paraît évident. On peut avancer qu'en mettant un pas maladroit après l'autre, quoi, en essayant d'améliorer au fil du temps.
Coralie Delhomme, si l'on considère que les pays et les peuples de chaque pays ont des intérêts qui ne sont pas forcément convergents avec ceux de leurs voisins, est-ce que ça veut dire que, de toute manière, toute idée, une construction européenne est à bannir ?
D'abord, ça ne veut pas dire que tous les intérêts divergent. Il peut y avoir des convergences ponctuelles et qui peuvent conduire à des coopérations.
C'est la
diplomatie. Les différents pays du monde, coopèrent sur certains sujets, un peu moins sur d'autres, pas du tout sur des troisième sujet. Ça s'appelle la diplomatie. C'est des relations internationales. Et je voudrais aussi rebondir sur ce qui a été dit par Marcel Selle, qui est intéressant. Il dit. À un moment, si on a fait l'Europe comme ça, à un moment, si on avait demandé aux gens s'ils voulaient le faire, ils auraient dit non. Bah, il se trouve que certains ont dit non. Les Français ont dit non à la construction, au projet de constitution européenne. Les Néerlandais ont dit non au projet de constitution européenne. On le leur a imposé par voie parlementaire. Les Irlandais ont dit non au traité de Lisbonne. On les a fait revoter. Auparavant, ils avaient dit non au traité de Nice, on les a fait revoter. Alors, je veux bien que la démocratie ce soit pas une panacée selon certains, mais enfin, il y a quand même des limites à ce qu'on peut imposer aux peuples au nom de leur intérêt suprême, qu'eux-mêmes sont supposés ne pas connaître. Enfin, je veux dire,
juste pour la petite histoire, parce que c'est assez drôle, l'un des motifs du vote des Irlandais contre le traité de Lisbonne en 2007, c'était le risque que le mariage homosexuel se généralise à toute l'Europe.
Mais peu importe,
non, mais ce qui est intéressant, c'est
leur motivation.
Les Irlandais ont voté en faveur de ce mariage.
Non, mais ce que je pense, c'est que, en effet, on est en train de tâtonner pour mettre en place une dynamique démocratique. C'est compliqué, c'est pas toujours juste.
Mais tâtonner, ça peut vouloir dire aussi reculer par moment.
Mais on peut reculer par moment aussi. L'histoire de l'Europe sur le long terme, c'est des avancées et des reculs. Et on voit que l'idée même européenne, elle a pas arrêté de progresser puis de régresser sur 4 ou 5 siècles. Donc c'est un mouvement. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que quand souvent il y avait de la régression, il y avait aussi des mouvements populistes et il y avait des guerres. Et c'est ce qu'on a voulu essayer d'éviter en mettant en place une dynamique qui soit pas uniquement une dynamique diplomatique, parce que la dynamique diplomatique exclusivement a conduit aux guerres de 14-18 et de 39-45. Et donc il fallait quelque chose qui soit plus impliquant pour les populations. On a inventé l'Union européenne, c'est compliqué, c'est tout jeune, ça reste quand même la zone la plus développée économiquement du monde et globalement l'une des plus riches avec les États-Unis, et c'est la zone où la paix est relativement la plus stable et où les droits humains, les droits des individus sont les plus aboutis, où la peine de mort est interdite, où toute une série de droits qui n'existent pas ailleurs sont mieux préservés. Donc, c'est pas si mal ce qu'on a fait, mais c'est une étape, et on est dans un mouvement où les générations qui ont construit l'Europe sont plus là, et celles qui la construisent aujourd'hui n'ont plus cette identité, ce truc qui était évident, qu'il fallait avancer ensemble. Donc, voilà, est-ce qu'on a envie d'avancer ensemble ? Je suis pas certain. Est-ce qu'on a intérêt à le faire ? Sans doute, très certainement, dans un monde qui n'est plus un monde européen et occidental depuis une décennie. Est-ce qu'on va y arriver ? C'est pas sûr, mais il faut que des gens le veulent et qu'il y ait des leaders d'opinion, des citoyens qui se coalisent pour le faire. Autrement, on revient à un modèle strictement national qui, pour moi, est une faillite de tout ce que les Européens ont essayé d'inventer et ont associé au progrès depuis 5 siècles.
Dernier mot de Coralie Delhomme.
Vous venez de nous refaire le coup de l'Europe, c'est la paix. Ben justement, moi,
j'ai pas dit que ça. C'est schématique.
Regardez,
j'ai montré toute la complexité de l'Europe.
Regardez les haines qui sont en train de monter entre les différents peuples. Il y a même des journaux allemands qui publient désormais des textes sur les Grecs qui sont à la limite du racisme, du racialisme, doutant de l'européanité des Grecs au motif qu'ils seraient mélangés avec un peu d'Arméniens et de Slaves. Vous trouvez que c'est la paix qu'on voit venir à l'horizon ?
Ça se condamne. C'est un scandale. Il y a du droit européen pour faire respecter
ce sont des haines qui n'existaient pas et que l'extrême violence du processus d'intégration supranationale a fait naître.
Et ben, on va dire que ce sera la conclusion extrêmement provisoire de ce très provisoire débat auquel je vous remercie d'avoir participé tous les trois, Guillaume Clossa, Coralie Delhomme et Marcel Sel. Débat comme chaque soir à prolonger sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Demain, nous poserons la question suivante. Pourquoi y a-t-il encore des régimes totalitaires? A priori, on devrait un peu moins parler d'Union européenne, encore que je ne sais pas. Tout de suite, en tout cas, c'est le rendez-vous et c'est avec Laurent Goumard. Bonsoir, Laurent.